Charles Dickens et Wilkie Collins. Le crime de Jasper, tome second. Chapitre 1. La mission du tailleur de pierre. Clocerham, ou du moins tous les habitants qui voulurent s'en donner la peine, virent un matin, peu de jours après la longue conférence de M. Crisparkle et de Durdles au sujet du buste ébauché, un spectacle capable d'étonner cette respectable ville si la faculté de s'étonner lui restait encore à son âge. Ce spectacle n'était rien moins que l'apparition dans la rue haute de Sonny Durdles se préparant à un voyage. Dire que Durdles, chargé peut-être d'une importante mission, s'était vêtu de ses habits de fête, c'est-à-dire d'un autre costume que celui qu'il portait tous les jours, serait prendre une liberté de langage pire que toutes les licences dont Durdles se rendait si souvent coupable. Nous n'avons d'ailleurs aucune raison de croire qu'il garda chez lui une portion inactive de la fortune de l'Angleterre en possédant des vêtements qu'il ne portait pas. Et puis, son vêtement ordinaire était si bien fait à la poussière et au plâtre que l'artiste se serait plutôt fait mettre en lambeaux que de consentir à s'en séparer ou même à céder aux sollicitations de la brosse. Il n'avait pas négligé cependant certaines améliorations internes et externes. Il s'était mieux lavé, par exemple, ce jour-là, qu'on ne se souvenait de l'avoir jamais vu. Une manière de col de chemise chiffonné et d'un blanc sale dépassait son habit. Il n'y avait rien à dire de ses souliers éculés, ils étaient depuis longtemps dans un tel état que le plus grand fabricant de cirage de l'Angleterre aurait risqué de faire banqueroute en s'engageant à fournir la matière nécessaire pour les noircir et les faire briller. Son chapeau était également indescriptible et dessinait à volontiers toutes les figures de la géométrie. En revanche, Durdles paraissait avoir frotté les grands boutons de corne de sa veste pour les débarrasser de la poussière de chaux. On peut même supposer qu'il avait fait le polissage avec le revers de ses manches. Durdles n'était donc pas tout à fait insensible aux séductions de la sirène vanité. Inutile de dire qu'il portait son paquet de provisions. L'éléphant voyage-t-il sans sa trompe? Le paon se promène-t-il sans son arc-en-ciel? À moins que des pans humains ne l'en aient dépouillé, croyant, comme le dit le vieux proverbe, que les belles plumes font les bons oiseaux. Non. Durdles, partant pour un voyage d'une certaine importance, aller à Londres et retour, s'était évidemment pénétré de l'idée que la métropole était en proie à la famine et qu'il lui serait impossible d'y trouver des vivres, ou bien encore que divers accidents pouvaient l'arrêter en route et lui rendaient indispensable un approvisionnement aussi complet que s'il était parti pour une croisière sur la côte d'Afrique. En sorte que son paquet présentait un aspect d'apprêt plus frappant même que celui de sa personne, on aurait pu croire que le paquet accompagnait plutôt l'homme que l'homme le paquet. Le départ de Durdles ne fut pas aisé. Il eut d'abord à se fixer sur le choix de la voiture qu'il préférait. Il en passa deux dont les compartiments avaient été doublés et capitonnés, ayant apparemment quelque répugnance à s'asseoir sur des objets moins solides que la pierre ou le bois, ou persuadé peut-être que dans ces constructions luxueuses, il pourrait se laisser aller au sommeil, perdre son paquet et manquer ses affaires. Ses affaires n'allaient pas croire que Durdles fit le voyage de Londres sans un but spécial, même assez sérieux pour mériter le nom de mission. Personne ne savait quelle était cette mission au moment où il avait quitté Clocerham. Pas même M. Crisparkle, auquel il avait confié, cependant, des choses ignorées de tous les autres. Que la mission dût être agréable et faite seulement pour visiter la grande ville, il était difficile d'en douter, rien qu'à voir la façon maussade dont les mâchoires de l'artiste étaient serrées et le froncement de ses sourcils touffus et rudes. Ce pouvait être une mission de bienfaisance, comme celle du révérend Luke Honeythunder, mais s'il en était ainsi, on pouvait craindre que le missionnaire dépassât en rudesse le philanthrope même et ne donnât à sa philanthropie le caractère décidément agressif. Mais, chose étrange, il devint bientôt évident que M. Honeythunder aurait l'occasion de se rencontrer avec Durdles. Le tailleur de pierre, une fois arrivé, se dirigea d'une façon menaçante vers l'asile du révérend, dont on ne pouvait pas toujours dire que ce fut l'asile de la paix. tombé par-dessus bord, pour ainsi dire, dans cette grande mer de Londres, dont les rides étaient produites par des hommes et les grandes vagues par des voitures de louange, des tapissières, des haquets et des omnibus, il pataugeait pour trouver son chemin dans la direction du bureau principal des Philanthropes Unis d'Angleterre et de l'univers entier, situé à une portée de pierre de Leicester Square. Certes, on devait avoir aussi grand besoin de philanthropie dans ce quartier que sur aucun autre point du globe. La location de l'asile y avait dû être faite pour des considérations savantes, d'après le même principe qui porte les compagnies d'assurance sur la vie à ouvrir leur bureau près d'un cimetière. Le voyage de Durdles ne pouvait être bien long, ni sa recherche vraiment bien difficile, et cela fut heureux, car notre homme n'avait ni beaucoup de patience, ni beaucoup d'adresse. Noyé et perdu dans la grande mer, puis repêché tantôt par un passant moins maussade que les autres, tantôt par un policeman plus utile que ses camarades, il pataugeait de nouveau, mais cette fois dans la bonne direction. Le froncement de ses sourcils grisonnants devenait plus marqué, sa bouche plus serrée, et les instincts de combativité se réveillaient de plus en plus dangereux dans ce vieux cœur. Enfin, il arriva devant le portail de l'asile principal. C'était comme un quai de grosses pierres gluantes s'avançant, dans laquelle Durdles venait de lutter et promettant d'abriter, suivant les cas, tout vaisseau qui s'en approchait. De nouvelles difficultés commencèrent à assaillir Durdles au moment même où il arrivait à ce quai de pierres sombres et glissantes. Si c'était le port, il tenait beaucoup des docks de Londres et de Liverpool qui excitent l'admiration de l'univers, non moins par la difficulté qu'on éprouve à y pénétrer, que par leur solidité et les sommes qu'ils ont coûtées. Ils ont des portes et on ne peut y entrer que lorsque la marée a atteint une certaine hauteur. Or, la richesse était prisée à l'asile principal et l'argent y était la marée. Malheureusement, dans le calendrier de Durdles, la marée était toujours basse. Pour laisser là les figures, il n'était pas assez bien vêtu, en dépit du col de sa chemise, pour indiquer aux puissances, même subordonnées, qui donnaient ou refusaient l'accès de l'asile, que les Philanthropes Unis d'Angleterre et de l'univers entier ne pouvaient tirer aucun avantage de son introduction dans le sanctuaire. Tous les hommes de négoce savent bien, et ceux qui ne sont pas de négoce devinent, la différence d'accueil faite à un acheteur ou à un individu qui fait pressentir l'intention de vendre plutôt que d'acheter, et surtout à un quémandeur. N'était-il pas évident que Durdles ne venait pas à l'asile principal avec l'intention de souscrire une forte somme ou d'apporter une donation généreuse? Cette vérité avait frappé même les yeux fatigués du subalterne en service à la porte. Il parut probable à cet homme que Durdles venait armé d'une de ses demandes illégitimes et inadmissibles, par exemple un don d'argent fait sans ostentation, qui était une des principales sources de tourments pour la société. Alors Durdles, ôtant son chapeau, dit « Durdles a besoin de voir votre grand homme, M. Honeythunder. » Le subalterne reconnut peut-être la justesse de la description de M. Honeythunder au point de vue physique et n'en jeta pas moins un regard dédaigneux sur le visiteur, puis regarda autour de lui pour trouver le Durdles dont on venait de parler et qui était peut-être caché derrière les montants de la lourde porte. En outre, le subalterne, habituellement bousculé et maltraité à l'intérieur, comprenait la nécessité de maltraiter et de bousculer, comme compensation, ceux qui lui paraissaient assez humbles pour lui permettre cet exercice. Il ne fit donc accomplir son devoir envers lui-même en répondant d'un air maussade « Durdles, qu'est-ce que c'est que Durdles? Et où est Durdles ?» À quoi le tailleur de pierre, torturant son chapeau, répondit comme un homme embarrassé et de mauvaise manière « Qui est Durdles? Et où est Durdles ?»« Durdles ?» « Imbécile, Durdles est ici et il n'est pas honteux de son nom. » Alors le subalterne, irrité par une épithète si malsonnante dont il venait d'être gratifié, mais empêché comme subalterne de donner un libre cours à son indignation, reprit « Ah, c'est vous qui êtes Durdles? Je pensais que ce pouvait être Lord Durdles ou l'archevêque Durdles ou… » Auquel cas, reprit sévèrement Durdles, vous l'auriez fait entrer tout de suite au lieu de le laisser à la porte. « Je veux voir M. Honeythunder. » « Vraiment, vous voulez. Tout ce que j'ai à vous répondre, c'est que vous ne pouvez pas le voir. Sortez, mon bonhomme, que je ferme la porte. » Oh bien, est-ce cela que vous faites dans cette maison-ci, empêcher d'entrer les gens qui ont des affaires importantes ? Répliqua rudement Durdles, faisant un mouvement pour dépasser le portier. Son gros paquet lui rendit un bon service comme tampon, pour ne pas dire comme bélier, et l'élan était assez accentué pour emporter Durdles au-delà du subalterne mal payé. Ce pauvre homme tourna comme un touton, et retombant sur la porte, bien malgré lui, il la referma. Pendant ce temps, Durdles, poursuivant avec énergie son avantage d'après les préceptes des tacticiens habiles, avait traversé un vestibule sombre, pénétré sous une rangée de lourdes colonnes, du reste parfaitement inutiles au monument, et se trouvait en présence de la force cléricale principale de l'établissement, toujours griffonnant, pliant, expédiant un nombre illimité de circulaires à la clarté des becs de gaz et avec une rapidité commandée par la foi. Là éclatait cette belle croyance que la véritable mission de la philanthropie, ce monde, est de distribuer des petits papiers écrits, qu'ainsi on avance l'arrivée du millénaire et qu'on hâte le jour où tous les hommes seront délivrés de la souffrance. Durdles savait bien qu'il allait être poursuivi par le subalterne, mais celui-ci arriva trop tard. Non seulement c'est souvent le premier pas qui coûte, mais souvent c'est aussi celui qui gagne le prix de la course. Durdles arrivait jusque-là, tout animé par l'indignation que lui avait causée cette tentative d'exclusion, et se sentant d'ailleurs victorieux, Durdles, remarquant que toutes les forces cléricales levaient les yeux pour le regarder, ne perdit pas de temps et se mit en posture d'orateur. Son paquet faisant l'office de sceptre ou de rouleau de papier pour marquer l'emphase, il commença un discours adressé à tous et à chacun des auditeurs, dans lequel il mêla son désir de voir M. Honeythunder à ses plaintes contre le portier. Cette hardiesse avait du bon, car elle devait le faire passer pour un souscripteur sérieux, mais il avait contre lui son habit, son plâtre et son paquet. D'ailleurs, il aurait pu attendre jusqu'au jour du jugement, car il ne s'adressait à personne en particulier, et personne n'a l'habitude de prendre pour soi un discours général et vague, si le ton élevé de sa voix n'avait pas créé une certaine sensation dans les bureaux voisins. Le bruit qu'il faisait indiquait un certain relâchement dans cette silencieuse subordination exigée parmi les philanthropes unis de l'Angleterre et de l'univers entier. Sa voix avait pénétré dans le cabinet particulier du directeur, occupé en ce moment à lire un long compte rendu très réjouissant de morts arrivées par la faim dans un journal philanthropique spécialement protégé par M. Honeythunder. Le directeur désirait naturellement jouir sans trouble de cette plaisante lecture, le compte rendu dont il s'agit n'étant que le prélude des objurgations les plus violentes et des dénonciations les plus amères contre l'égoïsme social. Cette voix retentissante de Durdles eut pour effet d'amener le directeur sur le seuil de sa porte, armé d'un froncement de sourcils menaçant, et d'une voix bien plus tonnante que celle de Durdles, d'une voix faite pour remplacer sans difficulté un porte-voix. « Messieurs, s'écriait-il, que veut dire ce bruit inconvenant dans un lieu consacré à un travail tranquille et consciencieux pour la bonne cause ? Si je l'entends encore, attendez-vous à un compte-rendu général des plus sévères. » L'effet de cet exorde fut matériellement manqué par une interruption qui arriva juste à ce moment, pleine d'émotion et de solennité. Durdles avait senti la nécessité de marquer la satisfaction qu'il ressentait en voyant disparaître la principale difficulté opposée jusqu'alors à sa mission. « Le voilà » s'écria-t-il. « C'est lui, Durdles le connaît !» La sensation causée par cette sortie ne peut être comprise que si l'on a la pleine connaissance de l'horreur inspirée à tous les subordonnés par la seule pensée d'interrompre Monsieur le directeur. Ils se jetèrent les uns aux autres des coups d'œil effrayés en présence d'une pareille énormité. Un ou deux ricanèrent bien en dessous, mais ils savaient bien qu'ils auraient mérité la peine de mort si on les avait découverts. Le directeur lui-même ne parut pas atterré dans le sens vulgaire du mot. Il prit plutôt un air de sombre majesté et toujours d'une voix tonnante, après un moment de silence, il reprit « Quel est cet homme et que vient-il faire ici ?» Avant que Durdles eût eu le temps de répondre lui-même, un des clercs les plus rapprochés du directeur répondit d'une voix basse et conciliante. Personne ne sait qui est cet homme, mais c'est lui qui a fait le bruit que nous regrettons tous. Cet individu demande à voir M. René Sander et n'a pas voulu accepter le refus qu'on lui a opposé. « Comment ? Il désire me voir ?» répéta le directeur. Tout le monde comprit ce que cela voulait dire. La philanthropie en est-elle venue là que de pareils misérables osent abuser du temps sacré d'un directeur des philanthropes unis d'Angleterre et de l'univers entier jusque dans son asile principal ? Oui, Durdles veut vous voir, Monsieur Honey Thunder, et ce qui est bien pire, il veut vous parler, et le plus tôt sera le mieux, répondit le tailleur de pierre, s'adressant effrontément au directeur lui-même, mais aussi à tous les autres. Il est probable que le directeur n'entendit que la première partie de cette déclaration, car on ne peut croire que s'il l'eût entendue tout entière, il n'eût pas donné l'ordre immédiat d'expulser cet impudent. Ce qu'il fit ensuite était un effort de politesse très remarquable pour lui. Il ne fit rien moins que d'avancer d'un pas ou deux dans la chambre en prenant un air qu'il croyait aimable. « Eh bien, dit-il, mon brave homme, si vous désirez me parler, qu'est-ce que c'est ?» Durdles agita son paquet dans la direction des clercs par un geste indicateur et dit « Pas ici, pas devant tout ce monde-là. Durdles veut vous parler seul. » « Retournez dans votre chambre, il n'y a personne, et Durdles vous suivra. »« Non, mon brave, » répliqua M. Honey Thunder avec une majesté accablante et de sa voix des bons jours. Jamais il n'avait été plus imposant, car sous prétexte de répondre à Durdles, il s'adressait à toutes les forces cléricales. Il fit, lui aussi, un geste de sa grosse main, indiquant ses droits de propriété sur l'asile principal dans son contenant et dans son contenu. « Non, je n'ai pas de secret pour mes employés, » reprit-il. « Si vous avez quelque chose à dire, dites-le tout haut. »« Pas de secret, hein ? N'en soyez pas trop sûr, tout de même. Les confidences sont une mauvaise habitude, on s'y laisse aller imprudemment, » répliqua Durdles de sa voix la plus rude. « Faites plutôt ce que je vous dis, Monsieur Honey Thunder, car je pourrais vous prendre au mot. » Ceci était insolent, il n'y avait pas à se le dissimuler. Et Monsieur Honey Thunder, l'homme qui aimait à diriger les autres et qui les opprimait aussi quelquefois, ne permettait guère qu'on le conseillât ou qu'on le dirigeât. Cependant, il y avait quelque chose dans les manières et les paroles du rude tailleur de pierre qui, tout en l'offensant, eut le merveilleux privilège de le porter à changer sa détermination. Et le voilà, se soumettant à ce qui n'était en réalité qu'un ordre. Il se dirigea vers la porte de son cabinet particulier et dit « C'est bon, entrez un moment, seulement un instant, car mon temps est précieux. » Durdles le suivit en cognant la porte de son paquet. « Maintenant, nous sommes seuls. Quelle affaire si importante avez-vous à me communiquer ?» Le directeur parlait rondement. Durdles fit un inventaire rapide de la pièce sombre, mais bien meublée où il se trouvait. Il examina la table particulière du directeur, les fauteuils bien rembourrés et la mappemonde pendue contre l'un des murs et marquée de points et de lignes à l'encre rouge pour indiquer les stations et les frontières de la philanthropie universelle. Puis il répondit « Oui, Durdles a voulu vous parler tout seul. Peut-être bien que vous n'aimeriez pas qu'il sache toutes vos affaires. »« Mes affaires ? Que voulez-vous dire, mon camarade ? Ce n'était plus mon brave homme, maintenant. »« Oui, vos affaires, Monsieur Honey Thunder, » reprit Durdles, « le révérend Monsieur Honey Thunder, comme quelques-uns disent. Vous êtes pressé, pas vrai ? Très bien. » « Alors Durdles ne vous tiendra pas longtemps et vous pourrez penser après à ce qu'il vous aura dit. Durdles veut que vous veniez à Cloisterham. Vous savez où cela se trouve. Durdles vous y a vu il n'y a pas longtemps. Durdles veut que vous y veniez pour prendre soin de votre fils. Voilà tout et ça n'est pas long à dire, pas vrai ?»« Mon fils ? Espèce de vieux misérable qu'on devrait mettre dans les cèpes ou au pilori si le gouvernement avait été assez intelligent pour les conserver. Mon fils, êtes-vous fou? Ou bien, quel tour cherchez-vous à me jouer? Doucement, ne parlez pas si haut, ou bien ils vous entendront, ce qui ne serait pas bon pour vous, répliqua d'un air calme le tailleur de pierre, nullement terrifié. Votre fils, c'est bien ça que Durdles a dit, et c'est bien ce qu'il veut dire aussi. Votre fils est celui de Sarilo.
Ah, vous savez ?
Murmura le directeur surpris et d'un ton plus bas. Mais il s'arrêta comme incertain de ce qu'il devait dire et Durdles reprit la parole.
Durdles sait bien des choses, monsieur Honey Thunder, révérend monsieur Honey Thunder, qui ne serait pas bien joli dans le journal si ça venait à y paraître, et vous ferez bien mieux de vous tenir tranquille pendant qu'il vous dira le reste. Je connais le garçon, je connais la mère, c'est Sarah Lott, et elle était de Newcastle. Un sacripant de chanteur d'hymne la déshonora. Peut-être bien que vous connaissez son nom. Moi, je le connais. Elle eut cet enfant et mourut. Il s'arrêta un moment, essuyant son front et ses yeux avec le paravent de sa manche. À ce moment, M. Honey Thunder cria d'une voix rauque et sifflante «
C'est un mensonge, vieil imposteur. Je vous ferai chasser à coups de bâton. »«
Non, vous ne le ferez pas. Ça n'est pas un mensonge et vous le savez bien. Vous viendrez là-bas et vous verrez que faire de l'enfant maintenant que vous savez où il est. Il fait honneur à son père. Allez !»
Durdles vous a vu le fouetter, cognant votre propre choix et votre propre sang, comme il le méritait ce jour-là, quand vous êtes venu à Cloisterham.
Voulez-vous vous en aller avant que je ne vous chasse, misérable imposteur, coquin ?
S'écria le directeur en se laissant tomber sur un des fauteuils.
C'est un véritable démon, mais peut-être bien que vous n'aimeriez pas à vous savoir le père d'un oiseau de galère, ce qui ne manquera pas d'arriver si vous ne prenez pas soin de lui.
Continua le tailleur de pierre sans le moindre signe d'émotion.
Son nom est député, tout au moins, c'est comme cela qu'on l'appelle, puisqu'on ne sait pas le nom de son père. Vous pourrez le trouver quand vous en aurez besoin, à l'auberge des voyageurs à deux sous ou dans les jardins de l'usine à gaz.
Aussi bien, écrivez tout cela de peur de l'oublier.
Ah, vous ferez bien aussi de prendre soin du jeune coquin avant longtemps, ou bien l'histoire arriverait aux journaux et ça vous ferait du tort.
Sa mission accomplie à sa façon, il sortit comme il était entré, et cette fois sans être arrêté par le subalterne. Il se dirigea de son mieux, en pataugeant, à travers la grande mer, s'arrêtant sournoisement sous un arceau commode pour alléger son paquet de provisions, dont les proportions devinrent un peu moins formidables. Il avait laissé M. Honey Thunder réfléchir sur l'objet de sa visite, et d'autant mieux préparé à tout ce qui pouvait être agressif et dénonciatoire dans le monde de la philanthropie. On comprend que M. Honey Thunder n'était pas plus content en ce moment du monde que de lui-même. Il faisait noir quand Durdles arriva à Cloisterham, mais pas assez pour l'empêcher, en se dirigeant vers son trou, d'observer Deputy, qui bombardait vigoureusement une malheureuse chatte. Il avait réussi à la chasser jusqu'à la cime d'un des arbres du vieux monastère, après avoir dispersé sa petite famille par divers moyens de destruction aussi ingénieux que récréatifs.
« Eh bien, mauvais démon, qu'est-ce qu'il y a en haut de cet arbre ?» demanda Durdles au polisson pendant une pause entre deux volets de projectiles.
« C'est la chatte au vieux Boxley. Hi hi hi, c'est moi qui me suis amusé hier avec ses petits. Tiens, voilà un bout de sa queue qui s'envole. Hi 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 !»«
Député, » dit Durdles solennellement, « que dirais-tu si je t'annonçais que j'ai fait un voyage aujourd'hui pour te chercher une place meilleure que celle de l'auberge des voyageurs à deux sous ?»«
C'est pas vrai, vous êtes sous et vous l'avez rêvé. Donnez-moi les 3 demi-pence que vous me devez ou bien je vous écraserai quand j'aurai fini la chatte. »
Telle fut l'aimable réponse de ce type des nouvelles couches de cet horrible gibier de potence. Puis il se remit à poursuivre la malheureuse chatte avec une vigueur qui promettait une capture prompte et certaine. Durdles ne se risquait pas à en dire davantage et se dirigea vers sa hutte. Il branlait la tête chemin faisant avec une telle force que son col de chemise s'en déchira. Il gesticulait d'un air de découragement devant un problème difficile et même impossible à résoudre au moyen du compas et du marteau, problème dont un des éléments lui était fourni par un enfant.